Bonjour Jonas Kaufmann, merci beaucoup d'être avec nous tout au long de cette journée sur France Musique. Vous êtes notre invité exceptionnel aujourd'hui, depuis le matin jusque tard le soir sur notre chaîne. On se rencontre et cet événement a lieu à l'occasion de la sortie de ce nouvel album, aujourd'hui chez Sony Classical. C'est un récital tout entier consacré à des airs d'opéra de Puccini. C'est Tony Papano qui dirige l'orchestre et le chœur de l'Académie Sainte-Cécile, que vous avez enregistré il y a quelques mois. Une première question tout d'abord, puisqu'il est tôt le matin, on se réveille ensemble, si j'ose dire. Comment allez-vous, Jonas Kaufmann ?
Très bien, absolument très bien. Oui, c'est pas mon heure préférée, je dois dire. Que normalement, je chantais jusqu'au tard le soir et après, on est toujours réveillé de la musique. Et donc, ça veut dire que 7 heures ou 8 heures, c'est... oui. Depuis l'école, c'était déjà là, détesté, mais ça a changé pas beaucoup.
Ce rythme justement extrêmement frénétique de chanteur d'opéra au niveau où vous êtes aujourd'hui, Jonas Kaufmann, est-ce que vous imaginiez que ce serait à ce point trépidant lorsque vous avez débuté la carrière et que vous êtes engagé dans cette voie de chanteur d'opéra? Est-ce que vous pensiez que ce serait si riche, si dense et si intense?
I swap into
là,
English
je vais
now,
passer à l'anglais maintenant parce que c'est un peu trop tôt pour moi pour parler. C'est un peu trop tôt même pour réfléchir en français.
Listen, I had no idea.
Écoutez, j'avais absolument aucune idée que ma voix deviendrait ce qu'elle est. J'ai commencé à chanter, j'ai toujours chanté en tant qu'enfant. J'aimais chanter, mais je ne m'attendais pas à ce que ma voix devienne ce qu'elle est et de pouvoir chanter ces airs merveilleux, particulièrement Puccini. C'est peut-être la musique la plus émouvante qui existe à l'opéra. Et à l'évidence, tout le monde connaît les grands opéras de Puccini. Mon premier opéra, celui que j'ai vu quand j'étais enfant, c'était Butterfly. Ça m'a donné la première impression de ce qu'était l'opéra. Et je n'ai jamais cessé d'aimer l'opéra. Toutefois, même sans l'espérer véritablement, j'avais aucune idée que ma voix finalement serait capable, ou serait même parfaite, pour un tel répertoire.
Ce premier opéra de Puccini, Butterfly, que vous avez vu et entendu lorsque vous étiez petit garçon, c'était à Munich. C'est vos parents qui vous avaient amené à l'opéra. Vous aviez quel âge, Jonas Kaufmann ?
J'avais 6 ou 7 ans. Et à Munich, à l'époque, je crois que ça existe encore aujourd'hui, on destine plusieurs représentations par an aux jeunes enfants. Il n'y a qu'un seul adulte qui ait le droit d'accompagner les enfants. Et donc, la majorité du public est constituée de jeunes enfants. C'est une occasion extraordinaire pour des jeunes d'avoir une première vision de ce qu'est l'opéra. Et c'est une audience, c'est un public fou. Je me souviens de mon premier contrat à Sarrebruck. Il y avait aussi ces représentations pour enfants. Et c'était très dur, parce que les enfants sentent immédiatement lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sentent si vous, en tant que chanteur ou en tant qu'acteur, n'êtes pas à 100% impliqué. Mais si vous faites semblant de le faire, ils réagissent très facilement. Donc je connais les deux côtés de la barrière, mais j'apprécie beaucoup que mes parents m'y aient envoyé à ces représentations et depuis lors, j'y vais très souvent.
C'était qui les chanteurs d'opéra et les ténors, singulièrement Jonas Kaufmann, qui vous faisaient rêver lorsque vous étiez jeune, adolescent et que vous avez même débuté tout de même cette carrière et qui chantait Puccini? Est-ce que c'était un Pavarotti qui chantait par exemple ce Nessun Dorma lorsque vous aviez 20 ans, 21 ans et que les trois ténors commençaient leur grande tournée de concerts?
Absolument.
Si je devais absolument mettre des petites étiquettes sur chacun de ces grands ténors, pour moi, Pavarotti porterait certainement l'étiquette Nessun Dorma, parce qu'il est devenu mondialement célèbre grâce à cet air. Tout le monde dans le monde de l'opéra le connaissait, mais aussi à l'extérieur de ce monde-là, il est devenu connu. C'était véritablement un événement bouleversant, extraordinaire, je m'en souviens très bien. J'étais devant ma télé, j'ai regardé ce concert, je n'arrivais pas à y croire. La quantité extraordinaire d'émotion et de plaisir que ces trois types, ces trois ténors classiques réussissaient à faire passer. Et c'était vraiment une telle maîtrise.
I was scared.
J'ai eu peur. J'ai eu peur de toucher à ces opéras, à ces airs classiques. Je n'ai pas chanté Nessun Dorma jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai chanté une fois lorsque j'étais étudiant, la première ou seconde année. C'était probablement à la même époque que l'événement de Rome. Je ne l'ai plus jamais rechanté jusqu'à ce que j'ai retravaillé dessus pour cet album Puccini. Pour moi, c'était tellement sacré, tellement saint, tellement beau, tellement extraordinaire que je ne voulais pas le gâcher. Avec une voix qui ne serait pas prête et avec une technique qui ne serait pas absolument maîtrisée pour chanter cet air de la manière dont il devrait être chanté.
Qu'est-ce qui est difficile, si tant est que ce soit difficile pour vous, mais singulièrement dans cette ère, dans ce Nessun Dorma, cette ère de Calaf dans Turandot, qu'est-ce qui est techniquement peut-être difficile, que peut-être vous n'imaginiez pas du tout atteindre justement il y a encore quelques années, en tout cas dans vos années de jeunesse, dans vos débuts?
Je ne peux pas expliquer
exactement où est le problème. Ce n'est pas une aria très longue,
et
ce n'est pas très haut. Oui, bon, il y a certains endroits, certains passages qui sont très hauts. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus hauts et beaucoup plus difficiles à faire. Je crois que c'est la situation. Lorsque le premier accord sonne avec la harpe et cette atmosphère merveilleuse créée par Puccini,
You're getting goosebumps.
Ça donne la chair de poule.
C'est
quelque chose dans lequel on est tellement impliqué.
It's very difficult.
C'est très difficile
to make it a success.
And this, de faire en sorte que cela réussisse. Cette note haute à la fin, c'est un si.
It's not that
c'est
high,
même pas tellement haut, mais ça semble être incroyablement élevé pour une raison ou pour une autre. Je ne sais pas. Encore, je n'arrive pas à expliquer pourquoi c'est tellement dur. Mais c'est toujours un défi. Et quand je l'ai chanté là pour la première fois, après l'enregistrement, j'ai donné plusieurs concerts. Ce merveilleux concert Puccini à la Scala de Milan qui a été enregistré et qui sera diffusé dans les cinémas plus tard. C'était un sentiment fantastique de pouvoir le faire finalement face à un public. Et les réactions étaient extraordinaires aussi parce que tout le monde m'a acclamé, tout le monde aime ça.
Et c'est un grand plaisir justement, Jonas Kaufmann, de chanter aujourd'hui avec la voix qui est la vôtre, la carrière aussi qui est la vôtre à ce moment-là. Le répertoire de Puccini, c'est toute une galerie de portraits évidemment, ce disque qui va par exemple du Chevalier des Grieux jusqu'à le Mario de la Tosca, c'est la Rondinée, ce sont des choses un peu plus rares, des œuvres de jeunesse de Puccini, je pense au Magnificaire de Roberto Dandrevili notamment, il y a Edgar également. Beaucoup de choses que vous avez chantées sur scène, d'autres pas encore. Est-ce que c'est un grand plaisir de chanter la musique, la façon dont les notes sont posées sur la partition par Puccini, et puis aussi d'incarner ces personnages, d'en faire un disque et de les porter sur scène?
Je crois que Puccini l'a maîtrisé comme personne d'autre ne l'a fait. A réussi à faire rentrer toutes ces émotions dans la musique. Je crois que c'est fantastique pour un chanteur d'être capable de plonger dans cet océan d'émotions qui vient de l'orchestre. Pour moi, disons, je sens que cela me va comme un gant. C'est quelque chose à laquelle je ne dois pas penser. Pas du tout. Il n'y a aucune raison pour moi d'en parler, d'en discuter, d'y réfléchir au sujet de cette interprétation. Il s'agit juste de le faire. C'est l'instinct qui me guide à travers cette musique.
Oui,
même les premières œuvres que vous avez mentionnées précédemment sont des chefs-d'œuvre merveilleux. Ce n'est pas tous les opéras, bien entendu, ça ne vient pas de la première à la dernière note, ce n'est pas tout de la même qualité. Mais imaginez quelqu'un qui a moins de 20 ans en train de composer ces deux arias que nous avons choisies, c'est fantastique. Et c'est du Puccini. On ne peut pas dire, ah ouais, c'est quelque chose de différent, ça sonne comme du Verdi ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas vrai. C'est typiquement du Puccini. Il a appris très rapidement, et au troisième opéra qu'il n'avait jamais écrit, c'était Manon Lescaut, qui est un succès extraordinaire. À mon avis, c'est peut-être le meilleur, le plus puissant, même qu'il soit difficile à chanter parce que l'orchestration est énorme, encore plus grosse, encore plus forte que dans les autres œuvres, parce qu'il avait appris par la suite comment créer la même atmosphère avec moins d'intensité dans l'orchestration pour laisser une chance à la voix de passer.
enormous privilege.
Mais c'est un privilège énorme d'avoir une voix capable de chanter ces airs.
Si vous deviez écouter ce disque de Jonas Kaufmann sans être Jonas Kaufmann, qu'est-ce que vous diriez de ce que vous apportez de singulier dans les couleurs, dans cette musique, dans ce répertoire, qui peut être très différent de ce qu'un ténor italien, puisqu'on évoquait Pavarotti tout à l'heure, par exemple, peut donner et peut faire entendre dans cette musique, dans ce répertoire de Puccini, Jonas Kaufmann?
Oh, that's a very difficult question.
C'est une question très difficile.
It's hard to imagine that I'm not
difficile
myself,
d'imaginer que je ne suis pas moi-même, tout en m'écoutant.
Yes, I am German by
oui,
by
je
nature.
Suis allemand par ma nature.
When I'm in Italy,
mais quand je suis en Italie,
even as a child,
même en tant qu'enfant, à plusieurs reprises, ça s'est produit que des gens pensaient que j'étais d'origine italienne.
So,
heureusement, je n'ai jamais eu de problème avec le tempérament, avec la mentalité ou avec la langue.
Nevertheless,
je pense que j'interprète Puccini de façon différente de celle de, disons, Pavarotti, parce que c'était un maître absolu, une des grandes voix qu'on n'a jamais eues. Il était limité de certaines façons, parce qu'il était limité par la langue, qui a fait qu'il n'a jamais chanté dans aucune autre langue. Il a essayé une fois, je pense, en français, et ça n'a pas réussi. Donc il n'a jamais chanté que le répertoire italien, il n'a jamais chanté les grands rôles très lourds. Donc, j'ai cet avantage sur lui d'avoir fait tous les autres rôles. J'ai fait tout le répertoire français, j'ai fait tout le répertoire wagnérien, et toutes ces expériences m'ont aidé, je pense, à interpréter Puccini d'une façon différente, parce que Wagner aussi a été une influence pour Puccini, sa façon de composer, pas simplement Verdi. Avec toutes ces expériences, c'est différent. Je ne peux pas pointer du doigt quelque chose de précis ou une aria particulière où le public doit faire plus attention que par ailleurs, mais je pense que Puccini, pour moi, doit être joué de façon très intense, de façon très émouvante. C'est quelque chose où il faut vraiment s'ouvrir, où il faut vraiment montrer ses tripes. Je ne sais pas comment l'expliquer. Même si c'est très facile de chanter Puccini et de laisser l'orchestre jouer sa partie et ajouter simplement sa voix comme une ligne supplémentaire sur la portée, non, et de penser que c'est suffisant. Ben, ce n'est pas suffisant. Ça doit véritablement être ressenti. Ça doit être vécu, ces airs, ces rôles. Et c'est ça la chose la plus importante. Et je ne suis pas certain que Pavarotti ait toujours été de cette façon-là. Je pense que c'était quelqu'un, un chanteur de très contrôlé, techniquement parfait, mais très contrôlé.
Puisqu'on parle ténor et histoire des ténors, justement, Jonas Kaufmann, vous savez comment sont les journalistes. À vos débuts, en tout cas, on a essayé de dresser des ponts, faire des comparaisons, essayer de définir qui était exactement Jonas Kaufmann et quelle était sa voix. On a évoqué quelques noms, on a évoqué Fritz Wunderlich, bien entendu, notamment. Et vous, quand vous étiez jeune, quels étaient à la fois ceux qui étaient vos modèles, vos idoles peut-être, ceux qui ont été des références, des modèles et peut-être des leçons de chant et qui peut-être continuent d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas si c'est possible à ce stade-là de la carrière, mais de vous accompagner.
Quand j'étais plus jeune, j'écoutais, bien entendu, beaucoup de ténors, beaucoup d'enregistrements. Je fais toujours très attention avec l'utilisation du mot « idole ». Parce que c'est difficile de choisir une personne ou un chanteur en tant qu'idole et tenter de suivre chacun de ses pas. Parce qu'à la fin, on n'est plus qu'une pâle copie de cette personne ou de cet artiste. Et je pense que pour vraiment avoir du succès, on ne peut suivre que sa propre voix. Il faut suivre ses propres instincts. On ne peut pas être le deuxième Pavarotti, le deuxième Domingo, ou le deuxième Wunderlich, ou qui que ce soit. Il faut être le Kaufmann, dans mon cas. Donc il vaut mieux avoir beaucoup de grands chanteurs que l'on écoute, dont on apprend. Mais après, il faut le faire à sa propre manière. Fritz Wunderlich, bien sûr, a eu une grande influence sur moi. Pour moi, c'était le ténor allemand qui chantait avec son âme. Et ce n'est pas quelque chose de très typiquement germanique, de typiquement allemand, d'exprimer ses propres sentiments. Vous savez, les Allemands sont peut-être un peu plus réservés, plus contrôlés, moins dans l'émotion. Et pour moi, Wunderlich était le symbole. On avait toujours l'impression que c'était comme une chandelle qui brûlait par les deux bouts.
Feels that his next phrase will be the last that he ever sings. His
comme s'il chantait que la phrase qu'il chantait était la dernière de sa vie, sa dernière occasion d'exprimer ses sentiments. C'était fantastique pour moi de voir que, en tant qu'Allemand, c'était possible.
Corelli and
bien sûr,
many more,
il y avait Corelli,
Ramon Vinay, Di Stefano,
et beaucoup d'autres. Ramon Vinay, Di Stefano.
James King,
Richard Tucker,
whom I also had as a teacher,
James King,
many, many
qui
more,
d'ailleurs a été un de mes professeurs,
like
mais beaucoup d'autres,
Placido,
et les modernes comme,
comme
Placido. Et Placido, pour moi, c'était véritablement une référence parce que le rôle qu'il a joué pour moi, c'est la polyvalence. Oui, c'était aussi une voix grave. Il était baryton autrefois. Moi, j'ai commencé comme ténor léger et j'ai découvert mon registre grave que plus tard. Mais pour moi, ce qu'il symbolise, lui, c'est cette polyvalence. Il a chanté le répertoire italien, français, allemand avec autant de succès. Et c'était quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Et à la fin des fins, je l'ai rendu possible.
Donc,
pour la richesse de la voix de Corelli, et aussi parfois le courage de dire, et alors, je vais tenir cette note aussi longtemps que je veux parce qu'elle est tellement fabuleuse, d'être fier de sa propre voix. C'est peut-être ce que Corelli m'a enseigné. Et donc, pour chacun de ses chanteurs, de ses prédécesseurs, je pense qu'il y a une ou deux choses que l'on peut trouver qui est importante et qu'il faut conserver à l'esprit ou le mettre dans son propre répertoire.
Vous évoquiez Jonas Kaufmann, le premier opéra que vous aviez entendu et qui était Butterfly quand vous étiez petit garçon à Munich. Est-ce que l'opéra, c'était quelque chose qu'on écoutait beaucoup dans votre famille ? Vous êtes d'une famille de mélomanes et de musiciens. Votre papa avait, je crois, une belle collection de disques, de vinyles. Il écoutait beaucoup, notamment les grandes symphonies. Est-ce que l'opéra faisait, au fond, partie du quotidien de votre famille ?
Oui, on peut dire ça. Mais ce n'est pas seulement l'opéra.
Ce
n'est pas seulement qu'ils allaient deux fois par semaine à l'opéra. C'était aussi la musique classique en général. Et aussi le théâtre. Donc, on avait des abonnements pour tout genre de séries de concerts, que ce soit des programmes en solo avec des pianistes, des violonistes ou de la musique de chambre, et aussi des abonnements à des séries de concerts symphoniques. Nous avions aussi des abonnements pour tous les théâtres, pour le Residenz Theater, pour le Kammerspiel, etc., etc. Donc je suis allé voir beaucoup de pièces de théâtre aussi. C'était pas simplement de l'opéra. Et la collection de vinyles aussi n'était pas simplement de l'opéra. Et je crois que c'était très bon pour moi.
Vous
voyez, parfois, il y a des musiciens dont les seules connaissances ne portent que sur leur champ de spécialité.
Pardon de vous couper, c'est ce qui fait qu'un ténor aujourd'hui comme vous est non seulement un grand chanteur, mais un grand musicien, ce qu'on ne peut pas dire forcément de tous les grands chanteurs.
Maybe if you say so, that could be.
Peut-être, c'est vous qui le dites. This musical ça pourrait être le cas. Mais cette éducation musicale,
lasted all my childhood,
qui a duré toute mon enfance,
is a fundamental basis
est véritablement une des bases
what I'm doing now and to
pour ce que je fais maintenant. C'est peut-être aussi une des raisons de ma réussite.
In many occasions,
et en beaucoup d'occasions, j'ai appris que les chefs d'orchestre étaient très contents de travailler avec moi en raison de mon instinct musical. Et l'instinct musical, c'est quelque chose que l'on ne peut apprendre qu'en connaissant beaucoup de musique classique et en beaucoup de styles, beaucoup de répertoires. Si on écoutait tous les jours que aux enregistrements de Corelli, ce serait très difficile de vous accompagner si vous ne faisiez que ce qu'il a fait lui. J'admire bien sûr Corelli pour sa voix, mais parfois ça a dû être très pénible pour le chef d'orchestre de l'accompagner et d'attendre, de le suivre, écouter ses enregistrements. Parfois il a, dans une demi-page de musique, il a une mesure en retard, une mesure en avant et il s'en fiche, il ne le sent pas comme ça. Donc c'est une très grande voix, un caractère fantastique, mais la combinaison de plusieurs musiciens, pas simplement des chanteurs d'opéra, c'est une chose dont on peut apprendre en tant que musicien.
Ça veut dire que vous auriez pu être tout autre chose que chanteur, musicien, pianiste, autre chose, encore un tout autre métier. Ça s'est joué à quel moment justement cette décision de devenir chanteur professionnel, Jonas Kaufmann?
Oh, that's not easy to say. I would.
C'est pas facile à dire. J'ai toujours chanté.
At the beginning was a substitute
Au début, c'était un substitut pour des leçons de piano. Moi, je voulais avoir des leçons de piano, tout comme ma sœur aînée.
And I couldn't get it
et je ne pouvais pas en prendre parce que je n'avais que 5 ans et mes doigts étaient trop courts.
Donc,
je suis allé chanter dans un chœur. Et j'ai chanté dans ce chœur à partir de ce moment-là. Puis après, je suis allé à l'école et puis après au lycée. Et là aussi, j'ai chanté. Je n'ai jamais cessé de chanter. Et j'ai eu mes premières leçons de chant. J'ai chanté mon premier truc de solo dans des concerts donnés par l'école. J'ai rejoint un chœur professionnel et j'ai chanté dans des concerts là. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire de la musique. Pas simplement chanter, mais véritablement à faire de la musique, à être dans l'harmonie, si on peut dire ça, parce qu'on est entouré par la musique quand on est dans une foule de gens qui chantent.
Et
oui, j'ai commencé aussi à apprendre le piano. Au début, c'était plus un fardeau qu'autre chose, mais après, ça s'est prouvé être très utile pour apprendre la musique et mes nouveaux rôles. Oui, mais bon, fondamentalement, quand j'étudiais, j'ai pas pris ça tellement au sérieux, l'éducation, au-delà des leçons de chant. Mais c'est très important, et ce n'est que plus tard que j'ai appris à quel point c'est nécessaire et à quel point c'est difficile pour un chanteur, ça doit être pour un chanteur qui ne connaît rien que la manière d'utiliser sa voix. C'est très, très difficile. Si vous ne connaissez pas l'histoire de la musique, si vous ne connaissez rien aux instruments, comment ils fonctionnent, si vous ne savez rien des styles, même des choses qui concernent le rythme, d'où vient tel ou tel rythme, est-ce que c'est une danse, tous ces petits trucs, c'est très très important pour toute interprétation de vos rôles. On peut facilement écouter simplement à d'autres chanteurs et les copier, mais si vraiment vous voulez trouver votre propre style et suivre votre propre voix, c'est essentiel que vous en connaissiez beaucoup sur la musique pour pouvoir faire confiance à vos instincts.
Ça veut dire que vous avez toujours le temps d'en écouter, et tout autre chose d'ailleurs que de l'opéra. Est-ce que c'est quelque chose qui continue de vous nourrir ou au fond le rythme de la carrière, la succession des productions, les disques, l'agenda qui est le vôtre aujourd'hui ne vous permet plus cela?
Oui, c'est très difficile maintenant, parce que vous voyez, la musique, c'est ma vie. Et même si j'arrête de chanter, probablement j'aimerais que la musique soit toujours avec moi. C'est devenu trop essentiel pour moi. Mais c'est très difficile de trouver le temps. Bien sûr, j'essaye. Je le fais de temps en temps, je vais à des concerts. Aussi à la maison ou quand je suis dans la voiture. J'écoute de la musique classique. En fait, c'est beaucoup plus facile pour moi d'écouter des pièces où il n'y a pas de chant, parce que dès que l'on commence à chanter, on ne peut pas se détendre, on ne peut pas aller juste écouter
listening carefully
sans
or in analytically,
de façon analytique, de très près,
the style, the technique,
le style, la technique, les erreurs possibles. Et tout ça, c'est très, très difficile. C'est aussi de l'opéra. Moi, quand je regarde un opéra, je vois toutes les erreurs sur la scène. Je vois, ah, tiens, là, le projo, il n'arrive pas au bon moment. Je vois quand telle ou telle entrée est retardée. C'est quelque chose que, dont on sait trop, que l'on connaît trop pour ne pas faire attention à ces détails. Et donc, la musique classique, sans aucune voix, c'est quelque chose qui me détend beaucoup.
Mais vous, quand vous êtes sur scène, Jonas Kaufmann, c'est pas souvent que ça va pas, mais quand même, quand ça va pas, quand vous ne faites pas exactement ce que vous auriez voulu faire, que vous n'avez pas atteint exactement de la bonne façon ou de la façon que vous l'auriez souhaité, telle ou telle note ou telle incarnation, mais ça, vous le sentez vraiment vous, et vous le vivez de quelle façon, quel sentiment on a à ce moment-là?
The moment I'm doing it,
au moment où je le fais, j'essaie d'oublier, j'essaie de ne pas y faire attention à cette erreur ou à cette chose que je n'ai pas faite la façon dont j'aurais aimé le faire.
Et
je pense que de façon assez convaincante, je reste dans mon rôle, dans le jeu, et j'interprète et je continue. Mais si on me pose la question à la fin d'une représentation, je peux vous dire exactement quelle note, quelle partie, quelle phrase ou même quel mot j'ai raté. Je me souviens, il y a des années, c'était Faust ou c'était Werther à Vienne. Et Dominique Meyer est venu me voir et m'a dit « Ah, oh, mon Dieu, je suis tellement heureuse, c'était fantastique, c'était super beau, mon Nina, mais vous n'avez fait qu'une seule erreur. » Je lui ai dit « Oui, je sais, voilà l'erreur. » Mais comment vous le savez? Mais je l'ai su au moment où je l'ai fait. Mais on ne peut rien y faire, ça arrive parfois. On commet une erreur, mais ça reste là comme ça, et je ne peux pas m'en séparer. Et malheureusement, à la fin, je me souviens de toutes mes erreurs. C'est pour ça que je ne veux plus réécouter mes enregistrements, parce que je sais exactement où cette note-là n'est pas aussi bonne que j'aurais voulu qu'elle le soit. Et parfois, bon, c'est un peu douloureux.
Il arrive que l'émotion l'emporte sur la technique et sur le contrôle, justement. Il arrive que, comme ça, au cours d'une soirée, d'une représentation d'opéra avec ses partenaires, avec l'ambiance d'une soirée, mais quelquefois, on se laisse submerger, ne serait-ce que quelques secondes, par une émotion particulière. Et on perd un peu le contrôle, justement. Ça vous est arrivé, ça, déjà, Jonas Kaufmann?
Oui, bien sûr, ça peut se produire. Perdre contrôle de façon positive et de façon négative. De façon négative, parfois, si quelqu'un va véritablement de travers, et on perd absolument sa concentration et il faut recommencer et essayer de revenir sur les rails. Ou alors de façon positive. On est tellement content, heureux de ce qui se produit. Et tout tombe vraiment en place au bon moment. C'est un moment parfait. Mais à certains moments, il faut se pincer, se dire, attends, je suis encore sur scène. Il faut que je joue. Et on est emporté comme si on était dans le public, comme si on était chez soi, devant votre stéréo, et qu'on écoutait. Et puis soudain, on se rend compte, bon sang de bonsoir, il faut que je chante. C'est fantastique, c'est merveilleux. C'est des moments où on se perd complètement dans cette musique. Et c'est fabuleux. Ça arrive parfois. Et c'est un sentiment fantastique.
La voix qui est la vôtre aujourd'hui, Jonas Kaufmann, et qu'on admire tellement, non seulement dans l'opéra, mais dans le répertoire des mélodies aussi, des leaders, et la versatilité qui est la vôtre, et que vous disiez, le répertoire français, le répertoire allemand, italien, c'est Massenet, Gounod, Berlioz, Wagner, Puccini, Verdi, et tant d'autres. Et Schubert, et Mahler, et tout le répertoire des mélodies. Cette carrière, elle a mis du temps, et votre voix, vous avez mis du temps à la forger, à la façonner.
Malheureusement, de nos jours, les chanteurs n'ont pas ce temps. Ils n'ont qu'une seule occasion, pensent-ils. S'ils croient qu'ils ne saisissent pas cette chance unique, ils n'en auront jamais une seconde. Malheureusement, parfois, ça se termine de façon tragique parce qu'ils font les choses trop tôt, ils s'exposent trop tôt, ils chantent des rôles trop lourds et leur carrière finit beaucoup plus tôt qu'ils ne l'espéraient. J'ai toujours été très conservateur avec ma voix. Je me suis dit, il vaut mieux rester un pas en arrière plutôt que de toujours tenter d'aller aux limites. D'une certaine manière, c'est sain de découvrir ses limites, parce que ça veut dire qu'on peut accroître ses capacités. C'est comme dans le sport, si vous ne poussez pas votre corps à sa limite, vous ne mûrirez jamais ou vous ne pourrez jamais progresser. Mais avec la voix, c'est très difficile. Et parce que c'est un instrument extrêmement délicat, si vous la cassez une fois, ben ça y est, c'est fini. Il n'y a plus rien à y faire, on ne peut plus rien changer. Donc à plusieurs reprises, j'ai pris des décisions très conservatrices. Et ça a bien tourné parce que j'ai pensé qu'à la fin, il y aurait une seconde chance. Et qu'à ce moment-là, je serais prêt. C'est la chose la plus importante. Il faut sentir que vous êtes prêt pour un défi. Qui se présente. Et si vous ne le sentez pas, il faut attendre. C'est la vieille histoire. Hein. Pas d'impression, c'est toujours mieux qu'une mauvaise impression. Et c'est vrai partout. Si vous vous présentez pour un nouvel emploi, la première impression, si elle est mauvaise, vous ne pourrez jamais le réparer. Hein, c'est là pour toujours. Et donc, il faut faire attention avec ce que nous faisons. Quel est le pas petit ou grand que l'on doit faire quand on gravit l'échelle de sa carrière? J'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu de bons conseillers. Et j'avais beaucoup de confiance en moi pour attendre. Sur le plan vocal, je suis très heureux que ma voix ait fait toutes ces choses-là, c'est-à-dire qu'elle ait mûri et que j'ai pu découvrir de nouveaux sons, de nouvelles forces, sans perdre la souplesse, sans perdre la fragilité, qui est tellement importante pour, par exemple, le répertoire français, mais aussi pour chanter les leaders et les mélodies. Je crois que, pour moi, ça aurait été véritablement une perte terrible si je ne pouvais plus chanter ce genre de répertoire.
Ça veut dire que c'est le conseil que vous donneriez à un tout jeune chanteur ou une toute jeune chanteuse qui débute aujourd'hui, Jonas Kaufmann, faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire prendre le temps, des études de musique, le conservatoire, remettre aussi d'une certaine façon la technique sur le métier, reprendre les bases, et puis après, ce furent les années de troupe, il y a eu Sarrebruck, il y a eu Zurich, et puis les grandes prises de rôle. Bref, prendre du temps, c'est le conseil que vous donneriez aujourd'hui à quelqu'un qui débute ou qui voudrait s'engager dans une carrière de chanteur ou de chanteuse d'opéra.
Oui, si c'était la recette qui fonctionnerait pour tout le monde, ça serait beaucoup plus facile de créer des carrières. Mais en général, je dirais oui, il vaut mieux attendre un peu plus longtemps plutôt que de faire des choses trop tôt. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de voix qui ne soit pas capable de le faire. Agnès Ilia, qui a chanté à l'âge de 16 ans, 17 ans, ses premiers rôles wagnériens, elle est toujours là. Bon, il y a ces exceptions qui sont tout à fait respectables. Mais cela et les choses que j'ai déjà mentionnées précédemment, cette idée de trouver sa propre voix, trouver son propre instrument, bien sûr être influencé par les grands collègues que l'on aime et que l'on écoute, mais jamais tenter de les imiter. Il ne faut jamais que votre voix sonne comme la voix de quelqu'un que l'on aime. Peut-être que c'est la chose la plus difficile, mais ce n'est que votre voix, votre son à vous, votre son propre, ne stressera pas votre voix et finalement vous mènera à une carrière longue, à avoir un instrument auquel vous pouvez vous fier, parce que sans instrument fiable, être sur scène, être regardé par des centaines, par des milliers de personnes, c'est trop stressant. On ne peut pas poursuivre une carrière avec une voix en laquelle vous n'avez pas confiance. Donc ça, c'est la toute première étape. Une fois que vous avez fait ça, à ce moment-là, vous choisissez avec sagesse votre répertoire, pas à pas, et pas sauter du léger au super lourd. Parce que non seulement vous avez besoin d'une technique pour chanter un répertoire plus lourd, probablement ma voix aurait pu chanter il y a 5 ou 6 ans Othello, Mais je ne l'ai pas fait parce que je croyais fermement qu'il fallait construire pas à pas sa voix, que Othello, c'est quelque chose qu'on ne chante pas une seule fois, mais qu'il faut conserver dans son répertoire si on a l'expérience de tous les autres personnages. Alors j'ai fait mes débuts, là, maintenant, ces jours-ci, Radames dans Aïda, à Munich, et j'ai fait La Force du Destin, j'ai fait Le Trouvère et tous les autres rôles majeurs de Verdi, et maintenant je suis prêt à jouer Othello. Et c'est comme ça que ça doit être fait.
Et justement, alors, Othello, et puisque votre agenda, je crois, est bloqué et rempli jusqu'à 2021, c'est ça, Jonas Kaufmann ?
Yes, unfortunately, this
oui, malheureusement, c'est complètement fou. On est en train de caler la saison 2020-2021. Je refuse de m'engager à tout et à rien. Le système est tel que voilà, je m'engage à 3-4 productions par saison pour tout ce temps, et tout le reste viendra plus tard. Parce que sinon, on est bloqué dans votre spontanéité, on est bloqué en tant qu'artiste pour découvrir de nouvelles choses. De nouvelles choses que l'on voudrait faire, parce que malheureusement, le calendrier est complet. Mais Othello va venir rapidement, ça sera là, je pense, en juin 2017,
in Covent Garden with Tony Papano.
Au Covent Garden avec Tony Papano.
I can't wait. Now, the moment I put it in the calendar.
Vraiment, depuis que c'est dans le calendrier, je suis impatient.
Je me
dis, ah mon Dieu, j'aimerais bien que ça soit tout de suite. Mais bon, c'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça maintenant qu'il faut que je décide pour les autres grands rôles. Je dois décider maintenant quand je ferai mon premier Tannhäuser, mon premier Tristan, etc. Parce que si on pense à 2021, ça veut dire que j'aurai 52 ans.
Ce
sera probablement le moment de jouer ces rôles. Je ne veux pas penser tellement longtemps à l'avance, mais bon, c'est comme ça.
Tout à l'heure, vous disiez, j'ai dû prendre des décisions de temps en temps, et lorsque j'étais jeune, notamment un peu conservatrice, refuser des propositions, vous en refusez toujours aussi beaucoup ?
Je dois le faire, parce que autrement, je finirais par une vie que je n'aimerais pas vivre. Un calendrier superbe, je pourrais gagner plein d'argent, je pourrais voir le monde entier, mais après 2 ou 3 ans, j'arrêterais, je dirais non, c'est pas ce que j'appelle une vie. Parce que ça serait trop. La demande, elle est là. Bien sûr, j'en suis très heureux. Je suis très content que chaque grand opéra souhaite m'avoir. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas dire à tout. Et aussi à certains rôles. Et c'est aussi parfois la combinaison. Si un rôle pourrait être à ma mesure, mais c'est pas bon que ça vienne juste après quelque chose d'autre qui est trop semblable. Vous savez, la variété, c'est pas que si je chante un rôle léger, je peux pas avoir un rôle lourd après. Non, c'est très bon ça justement. Mais j'ai besoin de cette variété aussi pour maintenir une fraîcheur à ma voix. Si je chante trop le même genre de rôle, je pense que ça ne sera pas bon pour moi. Il faut choisir de façon sage, refuser beaucoup de projets, simplement parce qu'ils n'entrent pas dans le calendrier. Peut-être que ce serait le bon moment, mais ce n'est pas le bon endroit, le bon moment de le faire.
Et quelquefois, vous osez des choses insensées. J'ai évidemment beaucoup de souvenirs comme spectateur et auditeur de Jonas Kaufmann dans plusieurs salles d'opéra. Mais si l'on parle de Paris, par exemple, et de l'Opéra Bastille, le Werther que vous avez chanté ici à Paris, le dernier acte que vous susurriez quasiment, il fallait tendre l'oreille dans cette immense salle de l'Opéra Bastille. Tout le monde était suspendu à votre voix, à vos lèvres, et c'était absolument magnifique. Les gens pleuraient dans la salle. Ça, il faut vouloir l'oser tout de même dans une grande salle comme ça, mais faire de la musique, justement, ça nous ramène à ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire tenir compte évidemment de la façon dont on projette la voix et en même temps tenir compte de l'intimité de la musique. Il faut être très sûr de soi pour l'oser.
C'est probablement vrai. Il est plus facile de chanter fort que de chanter doucement. Et il faut savoir exactement à quel niveau de douceur on chante. C'est très difficile. Ça m'a pris beaucoup d'années pour comprendre que comment chanter piano. pour que les premiers rangs, juste à côté de la fosse d'orchestre, les gens aient l'impression que c'est véritablement chanté piano, mais qu'on puisse toujours être entendu dans les derniers rangs. Parce que si vous chantez tellement doucement que les premiers rangs disent « Ah ouais, c'est super piano !» et que ce soit difficile de vous entendre dans les derniers rangs. Donc voilà, ça doit être un piano projeté et il doit y avoir... La caractéristique du piano, l'impression d'être piano, mais d'avoir suffisamment d'intensité, c'est assez difficile, oui, c'est vrai, mais je pense que c'est tellement nécessaire. Je dirais que sans pouvoir chanter piano ou des notes chantées doucement, un forte ne donnerait aucune impression, ne serait pas impressionnant. Et donc la douceur, ce piano, c'est vraiment ce qui touche les gens beaucoup plus que toute aria que l'on pourrait chanter forte.
Ça, c'est aussi de faire de la mélodie, de pratiquer le récital, de chanter Schubert, Mahler, Strauss, d'autres compositeurs, avec seulement un accompagnateur, un pianiste sur scène, et la voix a nu la puissance, l'évocation des mots. Mais c'est cet exercice-là aussi qui vous nourrit beaucoup, justement, dans la façon dont vous chantez ensuite l'opéra dans une grande salle et devant 1500 ou 2000 personnes ou plus encore.
L'expérience des récitals avec le piano m'a beaucoup aidé à être capable de chanter aussi piano à l'opéra et de convaincre les chefs d'orchestre de lui dire « Écoutez, là, regardez, dans la partie d'orchestre, il n'y a pas grand-chose, alors réduisez le son à quasi zéro parce que ça donne un grand effet. » Ça fonctionne bien, mais la confiance dans le fait de pouvoir chanter piano, je l'ai reçu à travers le fait que j'ai chanté les leaders. C'est très important d'avoir cette expérience. Vous savez, je fais ces récitals de leaders, pas seulement dans les petites salles typiques pour les leaders, de 400, 500 personnes, mais aussi dans les grandes salles, le Bayerische Staatsopera, à Carnegie Hall, ou même au Met, 4000 places, et ça fonctionne là aussi, et c'est la même recette, c'est la même impression. Vous savez, j'ai parlé récemment à un chanteur qui avait été là au récital du Met, et il m'a dit, oh, ben, il a fallu que vous chantiez forte, parce que sans ça, vous n'arrivez pas au dernier rang. Et Helmut, mon pianiste, m'a dit, mais non, il chante piano. Moi, je n'entends aucune différence. Il doit y avoir un son piano intense qui traverse tout, qui traverse votre armure, qui tente de vous protéger de vos propres émotions. Et là, je crois que c'est la chose la plus dingue de tout ça, que la musique, que la voix peut véritablement vous toucher d'une façon qu'aucun autre instrument ne le peut.
Vous avez quel Radames que vous allez chanter sur scène, dans une mise en scène, pour la première fois dans les tout prochains jours à l'Opéra de Munich. Jonas Kaufmann, c'est avec également Antonio Papano et l'orchestre et l'Académie nationale de Sainte-Cécile que vous avez enregistré cette intégrale d'Aïda qui paraît en même temps que le récital Puccini. Aïda paraît chez Warner avec Anya Arteros, avec Ludovic Tézier notamment. J'ai envie que vous me parliez de l'enregistrement de ce disque et puis de votre travail aussi, non seulement sur ce disque, ce récital Puccini, mais sur scène dans toutes les productions que vous avez faites avec Antonio Papano.
Antonio Papano est probablement le partenaire avec lequel j'ai le plus travaillé. Je n'arrive pas à compter le nombre de rôles que j'ai fait avec lui. Et j'ai toujours su que j'étais entre de bonnes mains. Je l'aime beaucoup en tant qu'individu, c'est quelqu'un qui m'est très proche. Je l'adore en tant que musicien. Parce qu'il a ce feu, cet esprit, cette énergie. La musique n'est pas simplement là pour sonner bien, mais pour exprimer des sentiments. La musique, ce n'est pas une coquille vide. C'est quelque chose de vivant, qui doit être chargé d'émotions. Et c'est ce que j'admire le plus chez Papano. Il est capable de faire que cela se produise avec son orchestre, sans couvrir votre voix en tant que chanteur, ne plus avoir la possibilité de passer à travers. Ce n'est pas simplement un grand chef d'orchestre, mais c'est le fils d'un ténor. Il sait parfaitement ou respirer, ou accélérer, ou ralentir pour vous donner du temps, ou d'accélérer certaines mesures pour avoir plus de puissance à la fin de la phrase. Et ça vient tellement de façon automatique, tellement naturelle avec lui. On n'a jamais besoin d'en parler, d'en discuter. Est-ce qu'on le fait comme ci ou comme ça ? On le fait. Et ça fonctionne absolument bien. C'est tellement bien de faire de la musique avec ce type.
Et
on a beaucoup de projets, comme je l'ai dit. On a l'Othello que nous allons faire. Je suis très heureux et fier que trois productions avec lui. Nous avons le Puccini, disque solo, avec Tony et son orchestre Sainte-Cécile. Il y a l'Aïda, aussi avec l'orchestre Sainte-Cécile. Et il y a le DVD de Manon Lescaut, de la production de Covent Garden, qui sort. Donc voilà, trois productions que nous sortons maintenant ensemble.
Et vos partenaires, Jonas Kaufmann, j'allais dire les femmes de votre vie, mais les femmes de votre vie sur scène, tout de même, sans faire de jalouse, mais il faut en évoquer quelques-unes, celles avec qui peut-être vous, je ne sais pas, vous chantez, vous vibrez à l'unisson, avec lesquelles vous vous sentez quand même particulièrement en osmose. Anya Arteros, par exemple, avec laquelle vous chantez beaucoup, à Munich en particulier, et avec laquelle aussi vous avez enregistré justement cette nouvelle intégrale de d'Aïda.
Well, Anya Arteros is
Anya Arteros, à l'évidence, c'est une artiste exceptionnelle. Elle a une voix superbe, merveilleuse, une grande technique. Elle a tout pour devenir la plus grande soprano de cette génération. Peut-être qu'elle l'est déjà, d'ailleurs. Mais certainement, elle est dans le trio de tête ou les cinq premières, je ne sais pas comment vous allez l'appeler. Je l'aime beaucoup aussi, personnellement. Elle est très sincère, très dure avec elle-même pour pouvoir faire tout cela.
Vous voyez,
on a parlé du fait de chanter piano et à quel point c'était important de le faire. Si on a un partenaire qui n'est pas capable ou qui ne souhaite pas chanter piano, on ne peut pas le faire tout seul. Je me souviens très bien quand on a fait Don Carlo pour la première fois. Je lui ai dit, écoute, voilà, c'est l'air là où ils sont déjà quasiment au paradis. Et ça doit être fait de façon tellement douce. Elle a dit, oh, je ne suis pas sûr. Vraiment ? Mais non, je lui ai dit, le plus doucement, ce sera le mieux. C'est un moment tellement magique. Et à partir de ce moment-là, on tente de reproduire ce type de moment. Pas seulement les piani, mais aussi les fortes. Elle a une voix riche et forte. Je pense qu'on se fait confiance l'un l'autre. Et c'est très important qu'on puisse se parler et dire, écoute, faisons-le ainsi ou faisons-le comme ça. C'est une coexistence qui nous permet chacun d'arriver à la réussite. Et ça fait partie, peut-être s'il y a un secret, le secret de notre réussite.
On a parlé de votre travail avec les chefs d'orchestre, avec vos partenaires sur scène. On n'a pas encore parlé mise en scène. On enregistre cet entretien, Jonas Kaufmann, pour cette journée spéciale sur France Musique, ici au Festival de Salzbourg, où vous avez chanté hier soir d'ailleurs la toute première d'une nouvelle production de Fidelio de Beethoven, mise en scène par Klaus Guth. C'était un beau spectacle avec de très belles idées. La première a été particulièrement chahutée par le public. Comment vous vivez ça? Et au fond aussi, comment vous travaillez, vous, interprète, et peut-être force de proposition avec tous les metteurs en scène que vous rencontrez dans votre carrière?
Je suis toujours très heureux de rencontrer des metteurs en scène qui viennent avec de nouvelles idées. Si ça a un sens, je dis qu'il y a deux choses qui sont extrêmement importantes que tout metteur en scène devrait respecter. Tout d'abord, c'est respecter la musique, ne pas travailler contre la musique. Et deuxièmement, raconter une histoire semblable à la musique que le compositeur avait à l'esprit. Parce que si on raconte quelque chose de complètement différent, la musique n'a plus aucun sens. Et ça diminue, ça réduit la puissance de la musique. J'ai fait Fidelio à plusieurs reprises, une nouvelle production aussi à l'Opéra de Paris, qui était aussi une production moderne, mais j'étais très curieux de trouver des façons complètement différentes. Et avec Klaus Guth, on l'a fait, bien sûr. C'est une version où on a coupé tous les dialogues. Donc il n'y avait que la musique, que les airs. Personne ne dit rien, il n'y avait que des bruits entre les parties chantées.
put the musical pieces together.
Disons, le lien entre ces parties chantées.
Tell, for instance, a story.
Et on raconte l'histoire d'un florestan qui est
saved,
au-delà de la salvation.
He's been imprisoned for too long,
il a été en prison depuis trop longtemps, il a été torturé.
He's certainly a broken character.
C'est un caractère brisé. Il ne sera plus jamais capable de revenir à la société, de revenir à sa vie antérieure. Tous ces personnages, Pizarro, Giacchino, tous ont leurs propres problèmes. Ils sont tous prisonniers de leur propre destin. Et je crois que ça, pour aujourd'hui, je pense que c'est l'idée et l'esprit et le contenu de cette opéra, que l'histoire évidente à la surface, voilà, ce type qui est emprisonné et qui doit être sauvé par sa femme.
Tout à l'heure, vous disiez, je n'aime pas trop le mot idole, mais quand même, vous qui êtes idolâtré et adulé dans le monde entier aujourd'hui, comment vit-on, j'allais dire, d'être Jonas Kaufmann? Est-ce qu'on arrive à garder un peu la tête froide et à prendre de la distance avec tout ce qui se passe autour de soi?
It is not easy to accept that.
C'est pas facile à accepter, je dois le dire.
Sometimes struggle.
Parfois, je dois me battre avec ce fait.
Of course, you get used to,
bien sûr, on s'habitue au succès, ce qui est très dangereux.
Because it means that you lean
parce que ça signifie que, voilà, on lâche un peu la pression et on considère que le succès est quelque chose de normal, de garanti, ce qui n'est pas du tout le cas, parce qu'il faut travailler et œuvrer pour chacune de ses réussites. C'est très important. Il
ne
faut jamais l'oublier. Mais être une idole, ça peut être bien.
You can move,
ça veut dire qu'on peut changer des choses.
Plant the semen for the next
on peut planter les graines de la génération à venir de chanteurs, probablement pour un bon avenir de l'opéra et de la musique classique. C'est mon rôle. C'est ce que je dois faire. Je dois faire l'éloge de cette forme d'art, l'opéra, pour qu'une audience, pour qu'un public plus large y fasse attention et s'y retrouve. Parce que c'était, il y a des années, c'était la grande forme d'art. Et je crois que cela vaut la peine de lui donner un second regard et de lui donner une autre occasion. L'opéra est très loin de l'extinction, mais probablement c'est aussi un fardeau que je dois porter pour que ça se produise.
Merci beaucoup Jonas Kaufmann, merci beaucoup. On passe toute cette journée avec vous sur France Musique à l'occasion de la sortie de ce récital, donc Puccini Nessun Dorma avec Antonio Pappano. On vous attend aussi à Paris, beaucoup, cette saison. Vous allez venir pour un récital Puccini au Théâtre des Champs-Élysées, pour une version de concert d'Ariane Anaxos de Richard Strauss avec Anya Arteros et avec Kirill Petrenko, et puis bien sûr aussi dans une nouvelle production de La Damnation de Faust de Berlioz. Ce sera en décembre à l'Opéra Bastille sous la direction de Philippe Jourdan. C'est un rôle et une partition que vous aimez beaucoup, je crois, La Damnation de Faust.
Absolutely.
Oui, absolument. Je l'ai fait la première fois, je crois, en 2003,
Something like that,
quelque chose du genre,
in Brussels.
À Bruxelles.
And I've done it several times
et je l'ai fait à plusieurs reprises depuis.
I like it very, very much.
J'aime beaucoup ce rôle.
Berlioz has done a
je crois que Berlioz
a
fait un chef-d'œuvre là. C'est un opéra atypique, très difficile à mettre en scène, parce que le décor change de façon tellement radicale. Parfois, il y a des scènes qui durent 2 minutes, et puis après, on passe d'un coup à quelque chose de complètement différent.
Il
faut trouver une manière donc qui est plus abstraite pour que cela puisse se produire.
Que le Faust de Gounod.
That's hard to say.
Difficile à dire. Je pense que la damnation de Faust est plus forte. Le personnage est plus fort. La musique est beaucoup plus intense. L'autre est merveilleux. Il est très beau.
You see the darkness that a Werther, for instance, has is sometimes missing in the Faust.
Qui manquent dans le Faust.
And in a Damnation, I think
et dans la Damnation, je pense que on peut la trouver.
It starts with the first.
Ça commence avec la première scène et l'invocation à la nature.
C'est
un endroit, quelque chose d'extraordinaire.
Je peux vous demander une chose, de prendre cette feuille, de regarder cette feuille avec moi, Jonas Kaufmann, puisque vous lisez et que vous parlez extrêmement bien le français. Vous connaissez le principe du questionnaire de Proust. Est-ce que vous me lisez bien? Est-ce que je suis suffisamment lisible?
Ma vertu préférée... Oh, ça, c'est pas facile. Hein. I think it's that I never give up.
Eh bien, je pense que c'est que je ne renonce jamais.
Mon principal défaut. Oh God. It's probably exactly the same that I never give up.
Probablement la même chose, c'est que je ne renonce pas. Des gens me haïssent à cause de ça.
Mon application préférée. If I would have time, probably say.
Si j'avais le temps, probablement faire de la voile.
Mon compositeur préféré.
Puccini, of course. I mean, what a question.
Quelle question.
Vous allez me dire, et c'est la toute dernière question que je vous pose, Jonas Kaufmann, vous allez me dire que c'est pas très drôle, mais comment aimeriez-vous mourir?
Wow. I could say no, like Werther.
Je pourrais dire comme Werther dans les bras de Sophie Koch. De Sophie Koch.
That's really difficult.
Non, c'est très difficile.
Probably with music.
Mais probablement en musique.